France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée traductrice a choisi d'évoquer un roman qu'elle n'a pas traduit, mais qu'il a été à de nombreuses reprises, adapté aussi, devenu un véritable objet de pop culture. Histoire d'amour et de fantômes avec pour décor l'élan sublime et désolée du Yorkshire en Angleterre, ces héros tragiques, Catherine et Heathcliff, peuplent encore nos imaginaires. Ils viennent pourtant de la seule et unique Emily Brontë avec ses hauts de Hurlevent.
On ne peut lire les hauts de Hurlevent sans évoquer la figure étrange d'Emily Brontë qui, au sein d'une solitude physique et morale volontairement acceptée, tenta de suivre, selon la parole de Novalis, le chemin qui va vers l'intérieur. Cette fille de pasteur, qui ne connut pour horizon que les paysages austères des Moors du Yorkshire, et qui ignora hors l'affection qu'il attachait à sa famille, tout amour humain, nous a laissé cependant, avec Léo de Hurlevent, un roman de glace et de feu, d'une extraordinaire pénétration psychologique, qui ouvre, sur le problème du mal et sur celui de la passion, les perspectives les plus neuves et les plus mystérieuses. Mais le sombre éclairage que donne Emily Brontë sur la condition humaine dépasse singulièrement l'expression littéraire. Si, comme Shelley, elle a soulevé le voile de la beauté cachée du monde et pénétré dans des régions voisines de l'enfer du Dante, c'est par une exigence de lucidité, de sincérité et d'intensité qui touche à nos sources les plus cachées. Oui, les hauts de Hurlevent vont au-delà de toute école littéraire pour s'appuyer sur une vision très concrète de l'homme saisi dans sa misère morale, ses contradictions et sa soif d'absolu.
Bonjour José Camoun.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Je n'avais pas pensé justement que les hauts de Hurlevent allaient aussi bien avec le titre de notre émission. Vous êtes traductrice, José Camoun. Vous êtes traductrice de Jonathan Coe, Jack Kerouac, Philip Roth, George Orwell. J'en cite uniquement quelques-uns. Vous avez enseigné l'anglais. En 2024 est paru votre dictionnaire amoureux de la traduction. C'était aux éditions Plon. Vous en préparez un autre, le dictionnaire amoureux des écrivaines anglaises. Il est en écriture, mais peut-être que vous allez déjà nous dévoiler un petit peu certaines de vos réflexions. Vous avez choisi, je l'ai dit, les hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, mais c'est un texte que vous n'avez pas traduit.
Non, je ne l'ai pas traduit. Il a été traduit bien des fois, avec des titres divers, dont le premier était, chose assez surprenante, un amant. Alors j'ai cherché désespérément dans le livre s'il y avait un amant. Personnellement, je n'en ai pas vu. Mais enfin,
oui, c'est bizarre comme titre.
C'est très singulier. Et donc, quand vous dites qu'un livre vous hante, c'est tout à fait le cas de celui-là. Et pour cause, moi je réponds jamais à la question « Quel livre a changé votre vie ?» Parce que pour moi, ça voudrait dire « J'ai lu le petit livre rouge, je suis devenue communiste. » Vous voyez, je comprends ça. Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent, n'a pas changé ma vie par une décision. Mes yeux ne se sont pas ouverts, je n'ai pas versé des pleurs de joie. Mais il m'a accompagnée, et il m'a accompagnée dans des étapes de ma vie assez importantes. Je l'ai découvert jeune adulte, à 23 ans, quand je préparais l'agrégation, parce qu'il était au programme. Il se trouve que je ne l'avais pas lu dans l'adolescence. J'avais lu, j'allais dire comme nous toutes à l'époque, Jane Eyre, mais Les Hauts de Hurlevent, je ne l'avais pas lu. Et puis ensuite, je suis devenue professeure de littérature anglaise, si on veut, dans les classes préparatoires. Et j'ai choisi de le traiter avec les étudiants. J'en ai reparlé dans le dictionnaire amoureux de la traduction à cause du titre et des traductions successives. Et voilà que je l'installe dans mon dictionnaire amoureux des écrivaines anglaises, tout seul, à part entière, dans une seule entrée, parce que on ne peut le mettre nulle part.
Alors justement, moi, ça m'intéresse, José Camoun. Comment... alors déjà, revenons sur la traduction. Vous ne l'avez jamais traduit. Pourquoi vous n'avez pas eu envie de le traduire? Parce qu'on ne vous a pas proposé? Parce que vous n'en avez pas alors, eu l'envie, manifesté le désir?
Pour retraduire, il faut avoir une nouvelle lecture de l'œuvre qui conditionne la traduction. Donc je pense avoir une lecture assez particulière de l'œuvre, comme peut-être il apparaîtra d'ici tout à l'heure, à savoir que c'est un roman anthropologique, mais cela n'aurait pas, je pense, eu d'incidence sur la traduction. Il y a eu de très belles traductions, donc si je n'ai rien d'autre à dire, je me bornerai à admirer mes confrères et consoeurs.
Ah oui, voilà, vous faites partie des traductrices qui n'ont pas forcément envie de... Enfin, ça se trouve, en fait, tous les traducteurs et traductrices sont comme ça. Vous n'avez pas forcément envie de vous approprier le texte en le traduisant et en changeant quelques mots près. Ça peut vous satisfaire ainsi. Le texte peut vous satisfaire ainsi.
Tout à fait. Je trouve d'ailleurs que... Alors, je ne l'avais pas lu en français.
Ah voilà, dites-nous ça, parce qu'en fait, c'est ça aussi la vraie
raison,
José Camus.
Je ne l'avais pas lu en français. J'en avais lu des extraits, bien entendu, pour pouvoir apprécier la traduction. Et notamment les expressions de terroir, et notamment Wuthering Heights, le titre, qui a donné Hurlement, Hurlevent, Heurtebise.
Oui, c'est bizarre. Il y a aussi eu les hauteurs tourmentées, plus éloignées, les rages du cœur.
Alors, les rages du cœur, oui.
Là, on est proche des feux de l'amour.
Oui, c'est ça. C'est un peu plus inquiétant, mais bon.
Oui, c'est vrai.
Mais donc, je ne l'ai pas lu en français. Et du coup, il m'est arrivé une expérience assez saisissante, grâce à vous. C'est que quand j'ai lu, je l'ai relu intégralement, mais quand j'ai lu le début, qui m'était extrêmement familier en anglais, je lisais presque en stéréo, c'est-à-dire que tout en lisant le français, l'anglais me revenait. J'avais l'impression d'une écriture en relief. Vous savez, quand on a des lettres en gras qui sont ombrées, ce genre de police. Et ça donnait encore plus d'épaisseur et d'étrangeté au texte, s'il est besoin.
Donc, qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de découvrir un texte qu'on connaît si bien en anglais dans votre langue qui est le français ? Ça a changé quoi ? Est-ce que l'atmosphère de la langue anglaise... Moi, c'est une question que je me pose souvent, par exemple, avec Balzac. Je me demande ce que ça fait de lire Balzac en italien ou en anglais. Il y a quelque chose qui est propre à la langue française que nous, on arrive à percevoir français sans même peut-être le formuler. C'est comme une odeur ou une couleur. Vous arrivez à avoir les deux points de vue à peu près, José Camoun, c'est quoi la spécificité de la langue anglaise d'Emily Brontë ? C'est un roman gothique, on va en parler, mais il y a de la brume, il y a
du vent. Quoique non, quoique oui.
Voilà, c'est quoi l'atmosphère ? Vous avez eu la double langue, là, vous avez parlé de surimpression, presque quelque chose de l'ordre du palimpseste.
Oui, absolument.
Mais ça fait quoi de lire la langue d'Emily Brontë, la vraie, la source ?
Elle est extrêmement sonore. Pour un Français, l'anglais est très sonore. Par exemple, si vous voulez, j'ai un simple exemple. Papa. Donc, on a une plosive sur la langue anglaise. On a aussi, bien sûr, des sons qui n'existent pas en français, comme le th.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, là.
Il y en a pas mal.
Catherine.
Wuthering. Ah oui. C'est déjà étrange pour l'anglais, puisque c'est un mot du terroir. Donc, si vous voulez, je serais tentée de dire que pour un Français... même assez bilingue comme moi, l'anglais comporte une dose d'étrangeté et donc peut-être aussi de brutalité et de violence supérieure au français, d'autant plus que le français de l'époque va être avec des imparfaits du subjonctif un peu partout, qui sont légitimes, me semble-t-il, c'est une langue contemporaine de celle d'Emily Brontë, mais qui, pour nous français, donne un côté un petit peu raffiné, si vous voulez, qui vient peut-être légèrement atténuer la brutalité de l'original.
Oui, il y a un côté un peu frustre, brut.
Ah, il y a des personnages comme ça, oui.
Dans Léo de Hurlevent, il y a un côté un peu sale.
Oui.
Vraiment, où on se dit... parce que c'est quand même un roman où on n'est ni dans les bas-fonds londoniens, comme on pourrait...
C'est pas Dickens.
Voilà, exactement, ni l'aristocratie d'une Jane Austen. C'est pas propre comme roman.
Ah, pas du tout. Et ça ne veut pas l'être. C'est un roman qui est violent. Il est violent de part en part, j'ai envie de dire. Il est violent parce qu'il est construit sur des polarités très fortes qui sont l'amour et la mort, la vie et la mort, les vivants et les morts, le rêve et la réalité, la nuit et le jour. Il n'y a que des polarités dans ce roman. Elles sont extrêmement fortes, mais elles sont également ancrées dans un réel paysan, dans un réel de la terre. Elles sont ancrées dans le rythme des saisons et des travaux agraires. Elles sont aussi ancrées dans le corps des personnages qui sont parfois négligés, qui sont sales, comme vous l'avez fort bien dit. Une maison qui va apparaître, la bâtisse hein, des Hauts du Hurlevent, qui n'est pas du tout une gentilhommière comme son contrepoint dans la vallée, mais qui est une maison de propriétaires terriens assez frustes, comme vous le dites. Et il y a des endroits qui sont quasiment désaffectés, il y a du foin.
Il y a de la maltraitance animale, humaine.
Absolument.
Et ça, c'est dur aussi. C'est pas un roman aimable.
Ce n'est pas un roman aimable. Ce n'est pas un roman où la violence est glamourisée, je dirais.
Ah ben alors, on pourra peut-être y revenir.
Mais parce on peut en parler, oui.
Ouais, c'est vrai. C'est une question que je me suis posée en lisant le texte que j'ai lu au lycée. Et je dois vous avouer que j'avais tout oublié. Et je me demande comment j'ai pu oublier le degré de violence de ce texte. Et il m'a laissé dans un état assez perplexe, puisque j'étais à la fois terrifiée, fascinée, et je ne savais pas quel fil tirer de ce texte d'Emily Brontë. Je connais Emily Brontë, je connais sa sœur Charlotte Brontë, Jeanne Eyre. On connaît un peu leur histoire quand même de filles avec leurs frères qui sont quand même renfermés, qui écrivent tout le temps ensemble, qui se créent des histoires. En 1847 paraît ce livre des Hauts de Hurlevent. Je ne sais pas quoi en penser en fait. Je ne sais pas de quoi il parle, José Camoun. Enfin, il parle de tellement de choses. Je ne sais pas s'il est aimable. Vous le présentiez comment, vous, par exemple, à vos élèves? Vous, si quelqu'un vous disait c'est quoi les Hauts de Hurlevent, vous en diriez quoi
Mais je commencerai sans doute par dire d'où il vient et ce qu'il n'est pas.
Alors,
je le situerai dans le temps. Les premiers romans gothiques, ceux de Dan Radcliffe, de M.G. Lewis, de Walpole, 50 ans avant. Mmh. Et ces romans gothiques, ils sont dans une esthétique gothique, architecture, si vous voulez, au départ, hein, qu'on devrait plutôt appeler néo-gothique, puisque ce n'est pas l'âge gothique, c'est-à-dire sorte de gothique outrancier à la limite de la parodie. Les romans gothiques, qu'ils soient féminins ou masculins, c'est déjà deux choses différentes. Hein. Quand c'est des romans gothiques masculins, on voit le personnage central qui, bien sûr, est un homme et qui manifeste une hubris qui va le réduire à sa perte, à sa ruine. Du côté des femmes, c'est un peu différent. Mais en tout cas, ils ont toujours des personnages aussi polaires, mais c'est très manichéen. C'est-à-dire que vous allez avoir l'innocence persécutée sous la forme de la jeune fille blonde avec des yeux d'un bleu laiteux. Et puis, vous allez avoir le méchant, le vilain, qui est de préférence brun et qui a des traits anguleux et un nez en bec d'aigle. Vous voyez, donc, et bien entendu, l'ordre va être restauré plutôt sous une forme morale. Et dans les romans gothiques féminins, la jeune fille a le droit à deux issues possibles. Elle meurt trop tard, le prince charmant est arrivé trop tard, ou alors il arrive dans les temps, et bien sûr, ça se termine par le mariage. Donc ça, c'est le gothique, avec tout ce qu'il peut avoir, si vous voulez, de dérive vers le cliché. Il est bien entendu...
Avec tout ce qui nous a formaté aussi,
voilà,
en termes de représentation.
Il est dans l'esthétique romantique, et il faut dire un mot de cette esthétique romantique, qui va être... analysé, si l'on peut dire, formaté par Burke, qui écrit son enquête sur le beau et le sublime. Mmh. Selon Burke, qui sera suivi par Kant un peu plus tard, et d'autres encore, il y a le beau qui est harmonie, qui est repos, qui est plaisir, qui est la ligne courbe, et puis il y a le sublime. Et on a envie de dire, le sublime, c'est plus beau que le beau. Et donc, c'est la démesure et c'est ce qui fait peur, ce qui induit la terreur. Donc, le sublime, c'est d'abord un paysage alpin. Vous voyez, on va opposer, si vous voulez, Constable avec ses fermes riantes et puis Turner avec ses tempêtes, avec ses... On est presque près de l'abstraction. Hein. Donc, le paysage alpin, le château est sur un escarpement, les tempêtes en mer, tout ce qui menace la vie du sujet.
Donc, et les Hauts de Hurlevent.
Et les Hauts de Hurlevent, bien sûr, qui sont du côté, si vous voulez, donc gothique. Mais de l'autre côté, oui, vous avez la Grivelière, Thrushcross Grange, oui, qui est la ferme dans la vallée. On en reparle.
Voilà, il y aura ces deux endroits. Est-ce que, pour présenter ce texte, José Camoun, vous diriez aussi, c'est quand même une histoire d'amour?
Ah ben, c'est une histoire d'amour à mort. C'est une histoire d'amour à mort. Et quand vous posez cette question que je me suis posée, moi aussi, bien sûr, finalement, ça parle de quoi, cette affaire?
Ouais.
Entre autres choses, ça parle de l'amour à mort.
Entre Catherine et Heathcliff.
Les deux héros principaux, des héros tragiques, que rien ne peut séparer sinon la mort, virgule, et encore, point de suspension, comme on va le voir. Et bien sûr, les personnages non tragiques qui vont leur succéder pour rétablir l'ordre.
Comment l'as-tu écrit ? Comment as-tu écrit les hauts de Hurlevent ? Avec ma plume et du papier. Il y a sûrement autre chose. Une chose que tu me caches. Est-ce si inconcevable pour toi que ta sœur écrive une prose de valeur ? C'est un livre abject. Il est vil, abject et peuplé de personnages qui ne pensent qu'à eux-mêmes.
Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent. Tel est le nom de l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là-haut un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclination excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison, et à une rangée de maigres épines qui toutes étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a eu la précaution de bâtir solidement. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie. Avant de franchir le seuil, je me suis arrêté pour admirer une quantité de sculptures grotesques prodiguées sur la façade, spécialement autour de la porte principale. Au-dessus de celle-ci et au milieu d'une nuée de griffons délabrés et de bambins éhontés, j'ai découvert la date 1500 et le nom Ayrton Earnshaw.
Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, traduction de Frédéric Ledebec, qui est paru en 1847. Ce texte, cette traduction, elle est beaucoup plus tardive, hein, José Moon.
Oui.
On est à peu près au début du texte, on est sur les lieux. Pourquoi le nom de ces lieux, le titre de ce livre, ont-ils une telle importance, José Camoun ? Pourquoi ça détermine tout ? Vous avez parlé du lieu dans le roman gothique, mais là, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces hauteurs ?
Ces hauteurs font partie de la polarité du roman qui oppose le haut et le bas. Donc nous avons cette ferme, parce que c'est une ferme, c'est une demeure de propriétaire terrien, puis il y a des cultures, mais elle est assez austère. Elle ne reçoit que peu la lumière, parce qu'elle ne doit pas recevoir trop le vent et les tempêtes, donc elle est protégée. Mais en même temps, on ne sait pas si elle se protège du dehors ou si elle se protège du dedans. Et on va avoir cette contamination entre le dehors et le dedans, c'est-à-dire un environnement qui est extrêmement dangereux et hostile, potentiellement, et des personnages qui sont presque consubstantiels, si vous voulez.
Ils sont fondus dans la bâtisse.
Absolument, et particulièrement Heathcliff, quoi qu'il soit, peut-être étranger, on y reviendra. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a ce touriste qui vient d'ailleurs, ce londonien, qui est un peu valétudinaire sentimentalement, il a presque un chagrin d'amour, alors il se retire au fond de la campagne, dans un lieu impossible.
Il dit qu'il veut, alors il s'appelle Lockwood,
oui.
C'est le narrateur, il y en aura une deuxième de narratrice.
Il est le narrateur du récit périphérique.
Voilà.
Il vient donc nous donner une sorte d'œil du lecteur, donc il va nous confronter à quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir, c'est-à-dire cet environnement paysan et magique en même temps. Donc on voit bien que la question du seuil, c'est tout à fait le seuil dans le roman gothique, hein, y compris dans Dracula, où on va avoir le vampire qui tend la main sur le seuil de la porte et qui dit à Jonathan Harker, entrez délibérément et de votre propre gré. Bien sûr, Lockwood, comme il est naïf, ne lit pas, ne comprend pas ces grotesques qu'il y a sur le seuil de la porte et qui disent pourtant, qui annoncent la couleur.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est un lieu mystérieux et c'est un lieu potentiellement maléfique. Mais, en même temps, comme on va le voir dans les extraits suivants et tout au fil du roman, ce n'est pas du tout un lieu gothique en ceci qu'il est réaliste, pour ne pas dire hyper réaliste.
Ça, c'est la spécificité du lieu qu'a créé Émilie Brontë ?
Absolument. Et c'est ce qui fait justement toute la violence inhabituelle de ce récit, c'est qu'il est ancré, qu'il est enchâssé dans le réel, la paysannerie, le réel et le pas réel, puisqu'il est également enchâssé dans les superstitions, les légendes, les croyances, c'est-à-dire les fées et les fantômes. Donc on entre dans ce lieu que les anthropologues appelleraient marqué, si vous voulez, qu'on pourrait même appeler tabou, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire qu'il est doté d'une énergie très forte, ambivalente bien entendu, comme tous les lieux marqués, mais essentiellement maléfique et destructrice, comme on le verra.
Alors c'est ça, c'est exactement la question que j'allais vous poser, José Camoun, et vous avez prononcé le terme d'anthropologie. C'est ça votre lecture, peut-être pas celle qui vous a marqué quand vous avez découvert le texte.
N'y pensais même pas quand j'étais agrégative. Seulement entre l'agrégation et la thèse, j'ai fait une licence d'anthropologie et j'ai vu les choses sous un autre angle.
Qu'est-ce que ça vous a révélé de ce texte ? Ça apporte quoi cette dimension, cette grille de lecture anthropologique à ce texte ?
Eh bien. Quand on abordera la question de l'arrivée de Heathcliff dans cette ferme au départ...
C'est imminent, ne vous inquiétez pas.
D'accord. On comprendra qu'il introduit l'étranger et l'impair. Encore que, mais c'est comme ça que ça se présente. Pourquoi ? Parce que dans cette ferme des hauteurs, le haut, il y a un garçon et une fille, un jour à marier. Et dans la vallée riante avec la grivelière qui est une gentilhommière, il y a un garçon et une fille à marier. Les uns sont bruns, les autres sont blonds, les uns sont vigoureux et brutaux, les autres sont délicats et raffinés. Donc, association des contraires, c'est presque un mariage prescrit. Sauf que c'est peut-être une exogamie excessive, parce que justement, ils sont tellement dissemblables. Mais en tout cas, deux garçons, deux filles. Tout pourrait aller bien. Ah, mais si vous introduisez l'impair...
Qui est donc Heathcliff,
un élément entre guillemets étranger, mais je n'en crois rien. Ça va tout chambouler et la trajectoire du roman va consister à réduire cet impair à du pair et à rétablir l'ordre. Mais ce n'est pas un ordre moral, c'est un ordre qui va du tragique au normal, commun, banal, et c'est un ordre qui va opposer de manière définitive et stable le pôle sacré là-haut. Sacré, dangereux, stérile, et le pôle profane, fertile, riant, le sublime et le beau.
Pourquoi sacré dans les hauteurs ? Juste par une idée topographique ? Parce que c'est plus élevé, plus proche du ciel ?
Alors on pourrait tout à fait dire ça, mais parce que c'est isolé, parce que la maison est rébarbative, si vous voulez, hein, et que les personnages qui y sont des gens hantés par l'au-delà. Alors, voilà pourquoi je dis le pôle sacré, et que... On verra qu'à la fin du roman dont je ne dis rien...
On ne dira rien.
Et dont on ne dira rien parce que vraiment ce serait dommage.
Même si vous le connaissez, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler en fait. C'est quelque chose qui doit se faire presque intimement à la lecture.
Ah, c'est un roman qui résiste.
Alors d'un côté, donc, vous l'avez dit José Camoun, en haut nous avons le pôle sacré avec ses deux enfants qui sont Catherine et Inley. Puis le pôle plus bas dans la vallée, la grange, avec Edgar et Isabelle. Et tout va être... perturbé par un élément, on va y venir, mais quand même, j'aimerais insister sur cette idée que vous avez déjà soulignée, José Camoun, c'est l'idée du seuil qu'on entend dans le texte. Quand même, c'est, on ne cesse dans le roman d'aller d'un lieu à l'autre, et pourtant, ce sont des lieux clos. C'est comme si Hurlevent en hauteur, dès qu'on s'en approchait, nous contaminait, nous aspirait. C'est quelque chose d'important, et vous m'en avez parlé avant l'émission, donc j'insiste là-dessus, José Camoun, c'est typique cette idée de clôture d'un lieu.
C'est
typique de la littérature anglaise.
C'est un lieu clos, et je dirais même Wuthering Heights, c'est un lieu défendu. C'est une forteresse. Il se défend de l'extérieur pour des raisons météo, on pourrait dire, mais pas seulement.
Oui, parce qu'on n'en parle pas tant que ça de la météo dans le livre.
Ah, elle est quand même structurante, parce que Lockwood, s'il dort à Hurlevent, c'est pas pour rien.
Mais par la suite, j'ai trouvé que ça n'apparaissait pas tant que ça. Bon, quelques bas mouillés, un peu de neige.
Je pourrais vous dire que ces fenêtres qui s'ouvrent dans lesquelles s'engouffre la tempête de neige, quand Catherine accouche et qu'elle sort les plumes de l'oreiller et que la neige s'engouffre, cet extérieur est très menaçant. Il est menaçant et quelquefois il est aussi très riant, bien entendu. Hein, encore une fois. Et cet espace que vous avez tout à fait raison, dont vous avez raison de souligner la clôture, c'est un espace qui est évoqué de façon parfaitement réaliste. C'est-à-dire quand vous avez lu Le Haut du Volant, pour prendre un crayon et cartographier à l'agrégation. Mon interrogateur, un de mes interrogateurs, un peu excentrique, m'a demandé où se trouvaient Penistone Crags, qui sont les rochers des fées, en quelque sorte. Donc, oui. Je lui réponds, astucieusement, croyais-je, à mi-chemin entre les hauts et la grange. Bien sûr, me dit-il, mais à combien de miles? Donc, vous voyez,
ça c'est va vrai voir. Que tout se compte en miles dans le.
Tout
dans
est
le
très réaliste. Oui. Et donc, la grange aussi est close à la deuxième génération, quand la jeune Catherine, Catherine II, si Catherine Bisque.
Oui, c'est ça, la fille de voilà. Catherine.
On lui dit de ne pas dépasser les limites du jardin, et le jardin est clos. Ce sont deux mondes clos, en fait.
Hein. Il y a même un mur qu'elle franchit. Encore cette histoire de seuil de transgression.
Bien sûr, parce que c'est comme un conte de fées. On avait dit à la jeune princesse de ne pas s'aventurer, mais si la jeune princesse ne s'aventurait pas, il n'y aurait pas d'histoire.
On va passer à Heathcliff.
L'appartement et l'ameublement n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils eussent appartenu à un brave fermier du Nord, à l'air têtu, aux membres vigoureux, mis en valeur par une culotte et des guêtres. Vous rencontrerez ce personnage assis dans son fauteuil, un pot d'ale mousseuse devant lui sur une table ronde, au cours d'une tournée quelconque de 5 ou 6 milles dans cette région montagneuse, pourvu que vous la fassiez à l'heure convenable, après le dîner. Mais Mr. Heathcliff présente un singulier contraste avec sa demeure et son genre de vie. Il a le physique d'un bohémien, au teint basané, le vêtement et les manières d'un gentleman, tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards. Un peu négligé dans sa mise peut-être, mais cette négligence ne lui messied pas, parce qu'il se tient droit et que sa tournure est élégante, l'aspect plutôt morose. D'aucuns pourraient le suspecter d'un certain orgueil de mauvais ton. Une voix intérieure me dit qu'il n'y a chez lui rien de semblable.
Sur les hauts de Hurlevent, José Camoun, sans passer ce tube de Kate Bush, même si Riad Kera, notre réalisateur, ne l'aime pas. Et oui, je le dénonce publiquement. Vous l'adorez, vous êtes transporté par cette chanson, José Camoun.
Je suis soulevée par cette chanson et je me rappelle très bien le moment où elle est sortie. Et cette montée lyrique du refrain est tellement fidèle à l'humeur. Je dirais peut-être tôt ou tard qu'il n'y a pas vraiment de postérité littéraire à ce roman, et pour cause, il n'y a pas de saison 4. Mais en revanche, il y a cette musique qui me paraît mais tellement inspiré par le qui est déchirante, en fait.
Oui, hein. C'est comme un cri, c'est vraiment cri, le cri de Catherine.
Et puis, c'est le reflet du rêve. Enfin,
on ne fait qu'anticiper sur les textes qu'on va diffuser.
On va parler d'Heathcliff.
Voilà, on va parler d'Heathcliff. Alors, voilà, moi, je me suis posé une question tout au long du roman, ça fait partie de mes interrogations, José Camoun. Qui est Heathcliff? C'est le héros du roman, on l'a dit, c'est l'élément perturbateur de ces deux couples d'enfants frères et sœurs. Il va mettre le bazar, il va renverser les valeurs, il est présenté comme un démon. Il est adopté par le père de Catherine, Finlay. Il est aimé, il est élevé comme un fils, mais il est détesté par son frère.
Alors, Finlay. Il faut effectivement raconter son arrivée brièvement dans cette ferme de Hurlevent. Le père est parti pour affaires à Liverpool. Il est parti à pied, à cette époque-là, on chemine à pied. Et il a demandé à ses enfants, donc le garçon et la fille, ce qu'ils voulaient comme cadeau. Le garçon, ils ont demandé respectivement un violon et une cravache. Devinez qui ? C'est la fille qui a demandé la cravache et le garçon qui a demandé le violon. Ouais. Donc il arrive très tard, à la nuit close, on a retardé le dîner pour lui, tout le monde est très impatient. Sûrement les enfants sont impatients de revoir leur père et d'avoir les cadeaux. Mais quand il ouvre son grand manteau noir, le violon est en miettes et la cravache, il l'a perdue. En revanche, si j'ose dire, il a un drôle d'enfant dans son manteau qui est à peu près de l'âge de la fille, un an de plus peut-être, on ne saura jamais vraiment son âge, qui n'a pas de nom, il ne sait pas dire son nom, on ne sait pas s'il a un nom de baptême. Et il est noirot. Je dis bien noirot, je pourrais dire Moricot, on a beaucoup spéculé sur... Mais en tout cas, dans le roman, on l'appelle bohémien tout le temps.
Voilà, là, on a entendu dans le texte bohémien.
Bohémien.
On parle de peau aussi, voilà, on l'a entendu, le teint basané. On ne sait pas, en fait.
Alors, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toutes sortes de croyances autour des bohémiens, bien sûr, à savoir qu'ils connaissent l'avenir, et aussi à savoir que ce sont des voleurs d'enfants. Alors, qui est ce Heathcliff si étranger? Mais après tout, est-il si étranger? C'est toute la question, c'est ce qui fait la force du roman. C'est un roman pré-freudien, l'inconscient est quelque chose d'extrêmement puissant dans ce roman, bien qu'il ne soit pas nommé comme tel. On va lui donner, comme le père dit qu'on va l'adopter, il est le seul à être enthousiaste sur cette adoption. Et comme cet enfant n'a pas de nom, ne sait pas dire son nom et parle un charabia, c'est-à-dire qu'il ne parle pas anglais, on va l'appeler Heathcliff, falaise sur la lande, Heathcliff, qui est le nom d'un frère mort en bas âge.
Donc d'un absent, en fait.
D'un absent.
C'est presque un revenant.
Vous avez dit le mot.
Oui. Vous c'est vrai qu'il faut... J'explique ça, je surajoute un peu une explication.
Mais non, parce que j'allais le dire, vous m'avez enlevé le mot. Oui. Donc c'est pourquoi je dis que Heathcliff est en apparence très étranger par sa physionomie et la langue qu'il parle. Mais est-il finalement pas plutôt aimanté par cet environnement auquel il ne ressemble que trop?
Est-ce une émanation, en fait, du lieu?
Une émanation du lieu, pourquoi pas un retour de refoulé? Ça va très loin.
Ah oui?
Bien sûr que ça va très loin. Et je n'en veux pour preuve que son acclimatation extrêmement facile au milieu lui-même et son attirance fusionnelle et réciproque pour Catherine. Ils vont être inséparables.
Ils sont à la fois frères et sœurs. Ils s'aiment d'un amour fou, qui n'est ni de l'amour amoureux, ni de l'amour fraternel, qui est un amour métaphysique.
Absolument. Vous avez dit le mot. Bien sûr, vous avez
dit le mot. Et incestueux, malgré tout. On est obligé, vous parlez de retour du refoulé, il y a une dimension effectivement libidinale. Sans surimposer comme ça une lecture psychanalytique, il y a quand même ça qui est en jeu.
Bien entendu, parce que si ce n'est pas un inceste biologique, parce qu'après tout, a priori...
Ils n'ont aucun lien de sang.
Sauf à supposer qu'il est un enfant illégitime du père, mais ce que rien ne donne à penser. Mais bon, c'est une hypothèse aussi.
Oui.
C'est un inceste, effectivement. Ils ont été élevés ensemble assez tôt et ils se ressemblent de manière excessive. Ils ne sont pas seulement frères et sœurs, ils sont jumeaux en quelque sorte. Ils sont les deux moitiés de la même âme. Et dans ce sens-là, c'est un amour platonique au sens fort. On pourrait dire. Et c'est un amour d'élection. Donc, il y a aussi autre chose sur quoi les croyances sur les bohémiens, ce sont des voleurs d'enfants. Et ils partagent cet étrange privilège, si on peut dire, avec les fées. On croyait que les fées qui avait des enfants dans ces régions du monde, avait des enfants moricauds et très avancés pour leur âge. Alors moricauds, je ne sais pas pourquoi, encore qu'on y voit probablement les racines du mal, les germes du mal, très avancés pour leur âge, oui, les enfants des fées, on peut se dire qu'en effet, c'est le cas. Et alors les fées adoraient les bébés blonds et roses qu'elles voyaient dans les berceaux des familles anglaises, et elles se livraient à des substitutions d'enfants. C'est-à-dire qu'elles emportaient le blond et rose et elles mettaient le leur à la place. Et, aux surprises, cet enfant était bien moins blond que prévu et il savait toutes sortes de choses qu'il n'aurait pas dû savoir. On les appelait des changelings, des changeons.
Des changeons.
Des changeons, des enfants échangés.
Moi, ce qui me fascine avec la figure de Heathcliff dans ce roman, c'est qu'il y a quand même la question de l'alternative entre la liberté et le déterminisme. C'est qu'on se pose la question de savoir si, en fait, il est profondément mauvais, Heathcliff. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le démon? Est-ce que c'est un spectre, en fait, qui revient hanter? C'est une culpabilité, une pulsion mauvaise? Ou au contraire, est-ce que c'est l'environnement qui a déteint sur lui? Est-ce qu'il reproduit la violence dont il a été victime? Parce qu'il y a quand même, le terme n'est pas là, et on peut se demander quelle position avait Émilie Brontë par rapport à ça, mais il est accueilli comme un étranger, il y a une forme de racisme qui est là et qui va continuer à se reproduire et que lui-même va reproduire, en fait, de laquelle il va se venger.
Vous avez tout à fait raison. La question de l'éducation des enfants, à l'époque victorienne, se pose. Hein. Et les sœurs Brontë, je parle de Charlotte et d'Émilie, ont quand même été gouvernantes et institutrices. Oui. Hein. Donc, et les femmes se sont beaucoup intéressées à ce domaine qui leur était réservé, il n'y en avait pas tant. Donc l'éducation des enfants, on voit bien qu'il y a dans ce roman des représentants de la morale la plus classique et conformiste, oui, notamment la gouvernante Nelly Dean,
qui est l'autre narratrice,
qui raconte toute cette histoire. Et à cette époque-là, on punit les enfants assez sévèrement pour des incartades qui ne nous paraissent pas, à nous, particulièrement pendables. Mais il y a bien l'idée, effectivement, que l'éducation peut transformer un être en bien comme en mal. Or, Heathcliff, il va être maltraité sauvagement par l'aîné, par le garçon aîné. Il va être rabaissé, il va être humilié, il va être avili, on lui refuse l'éducation, l'instruction, et il va être sans arrêt ravalé au rang de domestique. Et cette idée que le garçon est fruste, domestique, etc., va se répéter jusqu'à ce qu'on atteigne, évidemment, l'équilibre final. Donc on a la petite fille qui, elle, jouit d'une bonne éducation et qui doit élever le garçon vers elle. Mais ça va pas être tout à fait possible, même si Heathcliff reparaîtra sous les traits d'un gentleman un peu plus tard, mais ce n'est pas la faute des propriétaires de Hurlevent.
Mais là, il y a quand même l'idée de la liberté, c'est-à-dire que Heathcliff refuse aussi le déterminisme, c'est-à-dire la vengeance et son émancipation.
Heathcliff est un être fort.
Il choisit sa destinée morale, il l'a choisi mauvaise, sûrement par reproduction, mais il l'a choisi quand même, puisque consciemment, il revient éduqué, habillé en gentleman, on l'entend.
Tout à fait, mais on nous a fait remarquer, Nelly Dean en tout cas, la question des narrateurs, sont-ils fiables, hein, il n'y a pas de voix off dans Le Haut du Hurlevent. On n'est pas chez Dickens. Hein. Donc il n'y a pas de voix off, donc nous sommes livrés à nos propres interprétations. Mais ce que Nelly Dean raconte de l'enfance de Heathcliff, quand il est maltraité, tourmenté, etc., c'est qu'il est stoïque. Il ne manifeste jamais la moindre émotion, si vous voulez. C'est un enfant chez qui on a tué les affects.
Les sentiments moraux.
Voilà, les sentiments moraux et même l'affectif. Parce que la morale, je dirais que le livre s'en fout. Hein, pour le dire de manière un peu, si vous voulez.
On est dans l'inconscient, donc effectivement, on est par-delà bien et mal. Oui.
Tout à fait, absolument. C'est l'expression. On est par-delà le bien et le mal pour les raisons que vous avez soulevées tout à l'heure. C'est un amour métaphysique. Hein. Donc, de toute façon, il n'a pas d'empathie. Parce que cette empathie a été bloquée dans l'enfance, à supposer qu'il en ait eu, qu'il ait eu un potentiel empathique. Mais là, s'il est, je dirais que c'est un psychopathe, hein, à cet égard-là. Il est incapable de la moindre empathie. Par contre, il s'est juré vengeance. Et on n'a pas dit revanche, on a dit vengeance. Donc c'est un être qui est l'incarnation de la vengeance. Une vengeance passionnelle, torrentielle, despotique, mais parfaitement calibré sur le plan social et juridique. Il s'est juré
C'est Machiavel, hein ?
Ah, tout à fait, c'est machiavélique. Il s'est juré de s'approprier non seulement le domaine du Haut-Levant, mais plus tard le domaine de la Grange, de régner sur tout ça. Et ça le restituera à lui-même et ça fera que affirmer cette puissance, cette force qui est en lui.
Je rêvais de nouveau, d'une manière encore plus désagréable qu'avant, s'il est possible. Cette fois, je me souvenais que j'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettaient. J'entendais aussi le bruit agaçant et persistant de la branche de sapin et je l'attribuais à sa véritable cause. Mais ce bruit m'exaspérait tellement que je résolus de le faire cesser s'il y avait moyen, et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. La poignée était soudée dans la gâche, particularité que j'avais observée étant éveillé, mais que j'avais oubliée. « Il faut pourtant que je l'arrête », murmurai-je. J'enfonçai le poing à travers la vitre et allongeai le bras en dehors pour saisir la branche importune, mais au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace. L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayais de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie sanglotait.
« Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. »
« Qui êtes-vous ? » demandai-je en continuant de lutter pour me dégager.
« Catherine Linton. »
répondit la voix en tremblant. « Pourquoi pensais-je à Linton ? J'avais lu Earnshaw 20 fois pour Linton 1 fois. »
« Me voilà revenue à la maison. Je m'étais perdue dans la lande. »
La voix parlait encore quand je distinguais vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coulât et inondât les draps du lit. La voix gémissait toujours.
« Laissez-moi entrer. »
Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. « Comment le puis-je » dis-je enfin. « Lâchez-moi si vous voulez que je vous fasse entrer. » Les doigts se desserrèrent. Je retirai vivement les miens hors du trou, j'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre, et je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me sembla que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure. Mais dès que je recommençais d'écouter, j'entendis le douloureux gémissement qui continuait. « Allez-vous-en » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer. Dussiez-vous supplié pendant 20 ans ?»«
Il y a 20 ans !» « 20 ans, il y a 20 ans que je suis errante. »
Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, lu par Anaïs Sisbert et Nicolas Berger, magnifique interprète. Nous sommes encore ici, José Camoun, au début du livre. Nous sommes uniquement au chapitre 3. Le narrateur est encore Lockwood, qui a donc franchi le seuil de Hurlevent et qui ne peut pas rentrer à cause de la neige. Effectivement, problème de météo. Il est donc contraint de dormir sur place dans cet endroit austère, infernal, dangereux, angoissant. Et il fait ce rêve terrible. On l'entend où il vient d'être hanté par le fantôme de Catherine.
Évidemment, cette séquence du rêve ne peut se comprendre qu'a posteriori quand on a lu le roman. Donc nous sommes tenus, nous aussi, de faire confiance à Lockwood. Mais vous parliez de clôture tout à l'heure, on a une clôture dans la clôture parce qu'il dort dans un lit clos. Il faut se représenter les lits bretons qui ressemblent à des armoires. Hein. Donc il est entré dans ce lit-là parce qu'il n'y avait rien d'autre. Enfin, on l'a mis là sans consulter le maître des lieux et il s'installe là, et donc ce lit clos a une paroi qui est la fenêtre, en fait. Hein. Et donc, il figure parfaitement l'interface, si j'ose dire prosaïquement, entre le dehors et le dedans. Et aussi, bien sûr, entre le conscient et l'inconscient, entre le rêve et la réalité. Donc, nous avons un personnage qui est un bon garçon, au fond, ce Lockwood, hein, tout à fait normal, tout à fait fonctionnel.
Je crois qu'on pourrait se poser la question, vous l'avez dit, des narrateurs. Jusqu'où sont-ils stables, et notamment Nelly Dean, qui est l'autre narratrice.
Certes, mais pour l'instant, nous allons prendre ce qu'il dit pour argent comptant.
Voilà.
Nous n'avons pas d'autres ressources. Et donc, voilà donc un individu parfaitement normal, qui fait ce cauchemar dont il comprend sans comprendre les éléments, si vous voulez, la distribution, hein, parce qu'il a lu le journal de Cathy, donc c'est effectivement... Et qui, être normal et adulte, va frotter le petit bras d'une enfant de 6 ou 7 ans contre le verre qui est coupé jusqu'à ce que le sang jaillisse. Donc il se livre à un acte d'une cruauté gratuite, en somme, sans le comprendre lui-même, mais c'est la terreur me rendit cruelle.
Oui, c'est ça qui est dit dans le texte.
Absolument. Donc c'est là qu'on voit, si vous voulez, le potentiel maléfique du lieu. Comme si il y avait un véritable esprit malfaisant dans ce lieu qui contaminait non seulement les gens qui y vivent, mais les gens qui sont là de manière adventice, si vous voulez, hein, par hasard. Si l'on peut parler de hasard dans ce livre. Et on voit aussi, bien entendu, cette dialectique qui, au début, bien sûr, est juste un choc entre le dehors et le dedans, entre l'esprit conscient qui résonne et l'inconscient qui fait surgir des monstres. Mais là où la magie intervient, c'est que, après tout, il ne peut pas savoir à ce moment-là que les propos de l'enfant ont un double sens. Et ça fait partie aussi, de l'attraction, de la fascination que le roman exerce sur nous, c'est que tout a un double sens. Aucun détail n'est jamais gratuit. Or, là, quand elle dit « je me suis perdue sur la lande », elle veut dire qu'elle a épousé Linton, qu'elle est allée dans cette exogamie qui est fatale pour elle et pour lui probablement. Donc je me suis perdue sur la lande, c'est ça que ça veut dire. Et les 20 ans, c'est les 20 ans qu'elle a passé là où elle n'aurait pas dû être. Mais tout ça, bien entendu, sera déchiffré plus tard, mis en place plus tard, pourrait même échapper au lecteur non attentif.
Vous avez dit, José Camoun, en début d'émission, que ce texte n'avait pas changé votre vie. C'est-à-dire que c'est, en le lisant, vous n'avez pas pris une décision de changement de vie. Vous étiez déjà d'ailleurs en train de passer la grecque d'anglais, donc ça vous a même pas décidé à devenir traductrice ou à être prof d'anglais, par exemple.
Et même pas à faire de l'anthropologie, parce que j'étais pas... ça n'est pas venu comme ça.
Mais néanmoins, est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose de l'ordre de la leçon de vie dans ce roman, même si des choses nous échappent, même si on a du mal à décrypter? Et moi, je me pose la question, ce roman me fait des choses, mais j'ai du mal à le dire. Est-ce qu'en fait, ce serait pas le roman de l'énigme qu'on a toujours avec soi-même? C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à se déchiffrer soi-même, ce qui fait qu'on ne cesse de revenir à ce texte, alors qu'on pourrait en condamner la dimension toxique. Heathcliff, c'est un être toxique, comme on pourrait dire un mascu toxique aujourd'hui, on pourrait dire ça.
Sans aucun doute.
Voilà, quelque chose de la reproduction de la violence, du racisme, il y a quelque chose de mal et mal.
Le racisme, il en est victime. Hein.
Lui en est victime. Mais voilà, on pourrait retenir ça, mais en fait, il y a quelque chose de plus métaphysique sur le rapport de soi à soi, la transparence qu'on n'arrive jamais à avoir, que ce soit du point de vue d'ailleurs de Heathcliff, du point de vue de Catherine, du point de vue de Lockwood, le narrateur, personne n'est transparent.
C'est pourquoi je disais que Heathcliff était un étranger, virgule, quoique. Et que cet étranger, en fait, relève bien du concept freudien postérieur, l'étrange familier. C'est pas un étranger total. Si c'était un étranger total, il ne nous intéresserait pas. Or, c'est un étranger qui fait retour. Et en effet, on n'a pas la clé de l'énigme, y compris à la fin, y compris à la fin des fins, si j'ose dire. Mais il nous fait remarquer, il attire notre attention sur l'étrange en nous, cet étrange irréductible, puisque au fond, c'est vous qui l'avez dit, cet amour pour Cathy est d'ordre métaphysique. Et là, il nous faut aussi revenir au décor, à ces landes. À un moment donné, Catherine raconte, quand elle est enfant, qu'elle a rêvé qu'elle était au paradis. Le paradis classique tel qu'on l'évoque, hein, tel que la religion l'évoque, la religion est évoquée largement aussi, hein, traditionnelle dans ce roman, et que elle s'ennuyait à périr, qu'elle était désespérée et qu'elle demandait à être projetée sur sa lande, à être déchue, tel un ange déchu, et que là, elle était parfaitement heureuse. Donc en fait, l'au-delà fusionnel et de Cathy et de Heathcliff, c'est cette lande de la liberté infinie. Qui deviendra infinie quand on se débarrassera du corps. Ils seront en quelque sorte des corps glorieux chevauchant sur la lande.
On va écouter un dernier texte, José Camoun, qui évoque justement cette idée de fusion au-delà de la vie.
«
Heathcliff se tourna brusquement vers le feu et continua avec ce que, faute d'un meilleur mot, j'appellerais un sourire.
« Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai fait enlever, par le fossoyeur qui creusait la tombe de Linton, la terre sur son cercueil à elle, et je l'ai ouvert. J'ai cru un instant que j'allais rester là, quand j'ai revu sa figure. C'est encore sa figure. » Le fossoyeur a eu du mal à me faire bouger, mais il m'a dit que l'air l'altérerait. Alors, j'ai rendu libre un des côtés du cercueil, que j'ai ensuite recouvert. Pas le côté près de Linton, que le diable l'emporte. Son cercueil, à lui, je voudrais qu'il eût été soudé au plomb. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlevât ce côté quand je serai couché là, et qu'il fasse subir la même opération à mon cercueil, que je ferai disposer en conséquence. Et alors, quand Linton viendra nous voir, il ne pourra plus s'y reconnaître.
Vous avez agi d'une façon indigne, Mr. Heathcliff. N'avez-vous pas eu honte de troubler les morts ?
Je n'ai troublé personne, Nelly. Et je me suis procuré à moi-même quelques soulagements. Je vais à présent me sentir bien mieux. Et vous aurez plus de chances de me maintenir sous terre quand j'y serai. L'avoir troublée ? Non, c'est elle qui m'a troublé, nuit et jour, pendant 18 ans, sans cesse, sans remords, jusqu'à la nuit dernière. Et la nuit dernière, j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais de mon dernier sommeil à côté d'elle, mon cœur immobile contre le sien et ma joue glacée contre la sienne.
L'union dans la mort de Catherine et Heathcliff, est-ce que, José Camoun, on a là la résolution de cette étrangeté à soi? Est-ce que là, on a non pas une vengeance, une lutte, mais voilà, une fin heureuse presque, si j'ose dire?
C'est une fin heureuse, mais elle n'est pas idéalisée comme elle pourrait l'être, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver dans les étoiles tous les deux. Non, ils vont se retrouver à se décomposer dans la Terre.
C'est pas un happy end.
C'est une fin tragique. Tragique, mais satisfaisante. Et c'est son bonheur à lui. De toute façon, il n'en a pas d'autre. Hein. Et il dit cette parole assez menaçante. C'est votre façon la plus sûre de me maintenir sous terre. Autrement dit, si vous ne faites pas ça, mon fantôme va venir vous hanter. Et d'ailleurs, je ne déflore pas la fin du roman, mais parmi les choses qui vont être résolues, comme dans des cultures traditionnelles beaucoup plus exotiques, c'est qu'il y a un chemin des morts et un chemin des vivants. Et il ne faut pas que les uns empruntent le chemin des autres. Il ne faut pas qu'ils se croisent. Et l'ordre sera rétabli. À Heathcliff et Catherine, le chemin tragique, celui des morts, celui de l'absolu.
On the eve of your departure, I sat beside you on the kitchen floor. You said darkness has no virtue of its own. It's only darkness. What is lost, you were tired of metaphor. I once crawled along the ruins, found you up above the timber line, where the mountain stood before us like a bride, narrow wide. The sun was honeycomb and turned your white hair gold. I don't want your voice to move me. I don't want to be cracked open. I don't want the knot to loosen in my throat, to place a landmine down a rabbit hole. I'm no pale-faced saint. I'm like a dog, always barking at a ghost.
« cette chanson, José Camoun, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui donc n'a pas transformé votre vie mais vous a accompagné jusqu'ici. Place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous avez lu mais que vous n'aimez pas ou alors que vous ne parvenez pas à lire. Qui avez-vous choisi ?
J'ai choisi « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry parce que j'ai essayé 2-3 fois et j'avoue qu'il me tombe des mains. Voilà, j'avoue qu'il me tombe des mains. Je sais que c'est un roman culte par-dessus le marché, donc je suis curieuse quand même. Mm-hmm. Je ne voulais pas mourir idiote, mais j'y arrive pas. Je trouve ça...
Alors c'est l'unique roman de Malcolm Lowry, ou en tout cas le plus connu. Il est paru en 1947. C'est l'histoire d'un consul britannique...
Alcoolique.
Alcoolique, voilà, c'est ça. La chose à
mais
part.
C'est pas ça qui me gêne. Hein.
Non, c'est pas un jugement moral.
Non,
mais
du tout.
L'écriture... donne l'impression d'être soi-même dans un état d'ivresse, c'est-à-dire qu'il y a une perte de repères, il y a...
Oui, mais c'est pas non plus ce qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à m'attacher au personnage, à adhérer à cette histoire. Ça me laisse froide. Maintenant, mon cas n'est pas désespéré, parce que je détestais Henry James et j'ai écrit ma thèse sur lui. Donc c'est pour vous dire que...
Mais comment on peut détester Henry James ?
Ah ben, je trouvais ça mondain, barbant, j'avais rien compris.
Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ?
Ben, c'était aussi au programme d'agrégation, c'était les ambassadeurs.
En fait, quand on vous oblige à travailler quelque chose, José Camoun, ça, vous vous y mettez. Mais imaginons, un éditeur vous demande de traduire Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Vous dites quoi ?
Je suis très prise en ce moment, ça aurait été avec plaisir. Mais
ah, vous refusez ?
Ah ben, bien sûr.
Ah, c'est vrai ?
Ben, vous ne traduisez pas quelque chose qui vous tombe des mains, ce serait une escroquerie. Vous pouvez traduire quelque chose qui vous déplaît. Quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord, qui vous inspire des sentiments de rejet, mais quelque chose qui vous inspire une prodigieuse indifférence, je ne recommande pas.
C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est de l'indifférence.
Oui.
C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est
genre
de l'affect. C'est même pas un argument rationnel, moral, intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça imprime pas, comme disent les gens.
Oui, oui. Vous avez aussi cité, en préparant cette émission à Manon de la Salle, un autre texte qui est celui de James Joyce, Finnegan's Wake, qui est un texte de 39, qui est vraiment une sorte d'ovni littéraire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Les traducteurs en disent qu'il n'y a même pas vraiment de langue de départ, de langue source. Est-ce que ce qui vous tombe des mains, José Camoun, c'est des œuvres dont la langue, et peut-être que là c'est une déformation professionnelle, n'est pas assez claire, n'est pas assez identifiable et troublée par des effets de l'alcool ou...
Non, ça me gêne pas du tout. Ces perturbations-là, j'allais dire psychotropes, ne me gênent pas du tout. Au contraire, quelquefois, c'est tout à fait envoûtant. Hein. Mais alors, c'est vrai que Finnegan's Wake, pour moi, c'est incompréhensible. Mais c'est incompréhensible délibérément, bien sûr. Hein. J'avais un collègue, quand j'étais un jeune prof à Henri IV, donc en prépa, à qui je dis ça, et c'était un grand Joycien devant l'Éternel. Et ce vieux monsieur me regarde et il me dit, gentiment, je précise, c'est parce que vous ne savez pas assez d'anglais. Donc, effectivement, j'ai un peu sursauté quand même, parce qu'au bout d'une agrégation et une thèse, on aurait pu supposer que...
Vous en saviez au moins un peu.
Un peu. Mais j'ai pas exclu cette idée. Et je ne l'exclus toujours pas.
Merci beaucoup, José Camoun. Tout n'est pas perdu pour Malcolm Lowry et Joyce. De vous, on peut lire votre dictionnaire amoureux de la traduction paru aux éditions Plomb. Bientôt, alors dans un an et quelques, votre dictionnaire amoureux des écrivaines anglaises, on a hâte. Je note aussi que vos traductions Not a John de John Didion est parue chez Grasset et votre traduction Le paradis des fous de Richard Ford paraîtra en poche aux éditions Point. Et pour lire Léo de Hurlevent, les éditions sont nombreuses et nous avons utilisé celle du livre de poche avec la traduction de Frédéric de Lebec. Un grand merci à Manon de la Salle et Corinne Amar, à Nicolas Berger avec Anaïs Isbert à la lecture des textes, à Riyad Kera à la réalisation, à Paul Guigue à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'appli Radio France.